Amen. Fait que, Seigneur, je t'offre mon corps, mon âme et mon esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, prends tout ce que je suis et utilise-moi ce matin, éternel Dieu. Que ton onction descende, Seigneur Dieu, non seulement sur moi, mais sur le peuple aussi, éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, ce que je vais vous emmener, c'est un sujet tabou. C'est un sujet qu'on ne parle pas, ou très peu, dans les familles, entre amis, et encore bien moins dans le cercle chrétien. On n'en parle pas. Et le sujet que je vais vous parler, c'est la dépression. Charles Spurgeon, célèbre prédicateur britannique, a commencé son ministère vers le milieu des années 1850. Il était aussi connu sous le nom du prince des prédicateurs. C'était tout un prédicateur, Charles Spurgeon. Cet homme, aussi célèbre fut-il, a souffert de dépression majeure tout au long de sa vie. Il est surprenant pour certains que Charles Spurgeon ait lutté toute sa vie contre la dépression. Sa réputation de prédicateur célèbre et puissant, son esprit joyeux pourrait nous amener à imaginer qu'il ne pourrait jamais y avoir de faille dans son armure. La vie de Spurgeon était en effet pleine de douleurs physiques et mentales. Âgé de 22 ans, en tant que pasteur, il était pasteur d'une grande église, parce qu'il venait de Londres, c'était un Britannique. Il prêchait à des milliers de personnes dans le Surrey Garden Music Hall lorsque des farceurs ont crié « Au feu! Au feu! » Lorsque ça a fait un émeute. Puis là, le monde, ben une émeute, ça n'a pas un émeute, mais je veux dire, le monde s'est précipité vers les portes. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a tué 7 personnes et laissé 28 grièvement blessés. Son esprit n'a plus jamais été le même. Sa femme, Susanna, écrit « L'angoisse de mon bien-aimé était si profonde et si violente que sa raison semblait chanceler et nous craignons parfois qu'il ne prêche plus jamais. » Puis, à partir de l'âge de 33 ans, la douleur physique est devenue pour lui une caractéristique importante et constante dans sa vie. Il souffrait d'une inflammation brûlante des reins appelée maladie de Bright, ainsi que de gouttes, de rhumatisme et de névrite. Aussi célèbre qu'il était, il l'avait pas facile non plus, lui. La douleur était telle qu'elle l'empêcha bientôt de prêcher pendant un tiers du temps. En plus de cela, le surmenage, le stress et la culpabilité à propos du terrestre ont commencé à faire des ravages. En plus de tout sentir ces émotions-là, il y a la culpabilité qui est venue par-dessus ça. La souffrance, disait-il, de manière plutôt prévisible, lui, ce qu'il disait, c'est un jugement de Dieu. La douleur, la politique, l'opposition, le surmenage, ainsi qu'a eu le deuil d'un de ses enfants, l'ont tous profondément affecté, quoique c'est arrivé par vagues dans sa vie. À tel point qu'aujourd'hui, il serait presque certainement cliniquement déprimé ou diagnostiqué déprimé et traité sûrement par des médicaments. Dans ce temps-là, ça, les médicaments ne l'étaient pas, mais aujourd'hui, ça ne prendra pas de temps que les médicaments, tu seras médicamenté avec tout ce que tu traverses. Suivi d'une thérapie, bien sûr. La dépression pouvait le frapper si intensément qu'il a dit un jour, je pourrais dire, comme Job, « Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ses os. » Martin Luther King était parfois envahi par des ténèbres qu'il se cachait pendant des jours et les membres de sa famille enlevaient tous les objets avec lesquels il aurait pu se blesser. Puis il écrit lui-même, cite, « Pour plus d'une semaine, j'étais près des portes de la mort et de l'enfer, plus que personne ne puisse l'être. » Je tremblais dans tous mes membres. Christ était complètement perdu pour moi. Je tremblais de désespoir et même de blasphémer Dieu. » C'était des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu. Jérémie le prophète, « Maudit soit le jour où je suis né. » Quand tu commences à maudire le jour où tu es né, ça ne va pas bien. Dans l'âme, ça vient jusque dans ta tête, dans tes esprits, dans tes pensées. Élie a souffert aussi d'une profonde dépression quand il a crié, « C'est assez! Maintenant, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas plus meilleur que mes pères. » En parlant d'Élie, Moïse, au mont des Transfigurations, les deux, dans leur ministère, ont prié et lui ont demandé la mort. Dans le dictionnaire, la dépression se définit comme suit. C'est un état pathologique marqué par une tristesse avec une douleur morale, une perte d'estime de soi, un ralentissement psychomoteur qui veut aussi dire nous emmener dans l'abattement, dans l'accablement, l'anéantissement, le découragement, la mélancolie. Des symptômes qu'on peut voir à la dépression, un sentiment de désespoir, un sentiment d'indifférence par rapport à la vie et aux proches, un sentiment constant de fatigue ou de manque d'énergie, pleurer sans raison apparente, incapacité à se concentrer ou à prendre des décisions, avoir des pensées suicidaires, une perte d'appétit ou des modifications des habitudes du sommeil, des maux de tête, des troubles digestifs fréquents. La dépression est beaucoup plus qu'une question d'être hey, « je suis dans des blues ». On entend ça des fois, « oh, je suis dans des blues ». Ça, ça veut dire « ça va pas, ma journée va pas bien ». Mais c'est beaucoup plus, parce que des journées, là, des blues, on en a toutes. On se lève un matin, « oh, on va bien ». Puis la journée peut être de même, puis des fois ça peut être deux jours de même, mais tu n'es pas dans une dépression, c'est juste que tu es dans des petits blues. Les signes d'un sévère épisode de dépression incluent une évaluation négative, non fondée de nos amis, de nos membres de famille et de nous-mêmes. Fait que ceux qui traversent des dépressions, fait qu'ils s'évaluent avec aucun fondement, des membres de sa famille, des amis, puis d'eux autres mêmes. Cela inclut aussi des problèmes de douleur physique, difficulté à se concentrer, à garder, à rassembler nos pensées et n'avoir aucun intérêt pour les gens qui nous entourent. Ce n'est pas un mauvais jour. Nous en avons tous un jour ou l'autre. La dépression prend contrôle de votre corps et commence à s'exprimer par les symptômes que j'ai cités plus haut. Le désespoir, les sentiments et tout cela. Dans le livre de Job, on va voir une des plus grandes, profondes déclarations de dépression. Mais avant, j'allais plus loin. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un psychologue. Notre sœur, la femme de pasteur Thomas, est venue me voir une journée. Elle a dit, « Écoute, Alain, elle dit, j'ai écouté un message. » Elle a dit, « J'aimerais ça si pasteur Claude pourrait écouter ce message. » Ben, je vais l'écouter. Puis c'est le pasteur David Jeremiah. Je l'ai écouté. J'ai dit, ouais, « J'ai compris des choses, beaucoup de choses face à la dépression parce que je vois mon frère, j'ai vu mon père, j'ai vu deux de mes sœurs, j'ai vu Ginette, l'ancienne femme à Claude, j'ai vu beaucoup de gens traverser des dépressions. On ne comprend pas tout le temps comment ça fonctionne, des dépressions. Puis je ne suis pas là pour vous expliquer comment ça va fonctionner. C'est que lui, il essaie d'amener une lumière et dire, écoute, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver à tous et chacun ici. À n'importe qui. Puis j'ai dit, je vais l'écouter, je l'ai écouté. J'ai dit, non, faut vraiment, j'essaie de traduire le plus fidèlement possible à qu'est-ce que lui, comme qu'il l'a emmené. J'ai ajouté des petites affaires aussi en chemin, mais c'est ça que j'amène. Fait que je vous dis, là, je ne suis pas un psychologue, là. Amen. Job 1. Fait que l'histoire de Job, tout le monde la connaît. La parole nous dit que Job était intègre dans toutes ses voies. Toutes ses voies. Puis Dieu, il l'avait béni dans le bétail, en argent, ses fils, 7 fils, 3 filles, se réunissaient ensemble, les enfants, ils donnaient des festins à un, l'autre donnait festin, puis la vie était belle, là. Tout était beau pour Job. Mais la parole nous dit qu'un jour, les fils de Dieu ont monté pour aller voir Dieu. Satan est venu aussi. Il était là. Puis là, Dieu dit, « Ah, as-tu vu mon serviteur? » Imaginez-vous, là. C'est pas Satan qui est venu narguer Dieu, là. C'est Dieu qui a dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur, Job? » Il n'y en a pas comme lui sur la terre. Il n'y en a pas. Il m'honore, il me respecte. Il est intègre dans toutes ses voies. Mais au verset 11, Satan répond, il dit, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Excusez. Verset 12, l'Éternel dit à Satan, il dit, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. » L'ennemi ne peut pas nous toucher, à moins que Dieu dise, « OK, faut que je fasse de quoi dans ce monsieur Job-là, là? Je vais te donner la permission de faire quelque chose. » Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Un serviteur s'en vient. Tu as perdu tes bœufs, tes ânes, tes serviteurs. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois, oh, je vais le lire. C'est intéressant ce bout-là. À partir du verset 13. « Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arrivait auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient, les ânes paissaient à côté d'eux, des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Imaginez-vous déjà là, c'est toute une nouvelle. Là. Mais si on lit l'autre verset après, il parlait encore avec le serviteur lorsqu'un autre arrive. Il n'a pas fini là, de tout digérer, qu'il venait tout de perdre ça. L'autre serviteur s'en vient. Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Encore, il perd des animaux, il perd des serviteurs. L'autre verset, il parlait encore. Imaginez-vous, là, c'est un en arrière de l'autre. Fait que dans l'espace de peut-être 1 heure, 2 heures de temps, il a tout eu ces nouvelles-là, jusqu'à temps de perdre bœuf, ânes, serviteurs, brebis, des serviteurs encore, en plus de perdre tous ses enfants. Verset 22 nous dit, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Imaginez-vous, dans toute cette chose qui venait de lui arriver, il n'a pas maudit Dieu. Et là, la parole nous dit, au verset 2, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. » Mais ça dit, « Oh, un jour. » Es-tu venu la semaine prochaine, la semaine d'après, 2 semaines? Le temps ne nous le dit pas. Mais n'empêche que Job avait à digérer tout ce qu'il venait de perdre. Imaginez-vous, là, 10 enfants, puis là, il n'y a plus de richesse, il a tout perdu. Là, Satan arrive, puis encore Dieu. Ah, t'as-tu vu mon serviteur? Hein, il ne m'a pas maudit comme tu l'avais dit, hein? Et là, Satan, il dit, ouais. Il dit, l'astère, là, touche son corps, puis tu vas voir qu'il va te maudire. Verset 5, il dit, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. « Seulement épargne sa vie. Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. T'sais, là, on peut dire, pourquoi Dieu permet-il, pourquoi Dieu a-t-il permis ça à son serviteur qui était intègre, il était parfait. Il était parfait aux yeux de Dieu. Mais Dieu a permis qu'il perde tout ça au début, puis là, maintenant, ça vient attaquer son corps. Job se tenait complètement nu devant Dieu. Toute aide ou encouragement lui avait été enlevé. Sa santé n'était plus, ses richesses n'étaient plus, sa famille n'était plus, puis son épouse même l'avait abandonné. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, sans qu'il le sache, Job, c'était un défi entre Satan et Dieu. Imaginez-vous, là, lui est au courant de rien, tout va bien, toujours au lendemain, paf, mais c'était un défi que Dieu et Satan avaient entre eux. Tu vas te maudire, tu vas voir qu'il ne maudira pas. On va prendre une petite gorgée d'eau. Il savait seulement une chose, il savait la douleur de sa propre vie. Sa misère était indescriptible, ses perspectives sans espérance. Et alors qu'il rejette les conseils de Satan et de sa femme de maudire Dieu, Job est maintenant désespéré de sa vie. Au-delà des douleurs physiques et émotionnelles et des angoisses spirituelles, Job maintenant est un homme avec un corps et un cœur brisé. Alors qu'il est assis sur un tas de cendres, parce qu'à l'époque, pour s'humilier, c'est se voyait sur la cendre, en dehors de la ville, là, on peut bien se demander qu'est-ce qu'il pense dans sa tête, le gars, là, tu sais. Un peu plus loin, dans le livre de Job 29 et 30, on ne tournera pas, je vais juste paraphraser, je vais aller, parce que on va manquer. Bon, non, il n'y aura pas. Je vais vous le dire, mais on n'y aura pas tous les, parce qu'on ne finira pas, là. On entend parler de Job de des choses telles comme elles étaient et comme elles le sont maintenant. Puis dans le livre 29, il parle, il se remémore des choses comme qu'il était avant. Il pensait au jour passé que Dieu prenait soin de lui. Ah, on va y aller, 29. C'est bien d'y aller, là. OK, allez-y, 29. Là, il se remémore les choses là, d'avant. N'oubliez pas, là, dans toute sa misère, il est assis sur le tas de cendres, là. Puis là, il se rappelle là, des choses avant. Là. Job 29. Il dit, « Oh, verset 2, que je ne puisse être comme au mois passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, que je ne suis comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, que le Tout-Puissant était encore avec moi et que les enfants m'entouraient quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville et que je me faisais préparer un siège, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. » Imaginez-vous comment il était éloquent dans la ville, là. Il arrivait, il avait préparé un siège, puis s'il y avait un jeune, ah, on va laisser assis Job, on va laisser assis Job. Et si, verset 8, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche, la voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais, l'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Ainsi de suite. Fait que là, il serait mort que. Il était éloquent dans la ville, là. Puis il se rappelle des jours que Dieu le bénissait, puis tout ça. Mais voici. Maintenant, au verset, le chapitre 30, je vais le dire, les versets. Verset 1, il dit, et maintenant, là, c'était avant. Puis là, il a passé tout ce qui a passé. Là, il est assis sur le tas de cendres. Puis il est en train de déprimer sur le tas de cendres. Là, il dit, mais maintenant, verset 1, je suis la risée des plus jeunes que moi. Verset 10, ils ont tous horreur de moi. Ils se détournent, ils me crachent au visage. Ils n'ont plus de retenue, ils m'humilient, ils rejettent tout frein devant moi. Verset 15, les terreurs m'assiègent. Ma gloire est emportée comme par le vent. Mon bonheur a passé comme un nuage. 16, et maintenant, mon âme s'épanche en mon sein. Les jours de ma souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge me donne aucun repos. Voici, je crie vers toi. Il parle à Dieu. Je crie vers toi. Tu me ne réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Fait que là, on voit là. Puis souvent, des gens qui traversent des grosses dépressions, là, il y avait une certaine vie avant qui venait. Puis quand ils sont là-dedans, on dirait là que on oublie les gens qu'ils étaient. On se met à l'écart d'eux autres. Écoute, moi, je sais que déjà, là, écoute, gars de construction, c'est un peu macho. C'était un monde d'hommes. À l'époque, il y a des femmes dans la construction. Mais tu vois, quelqu'un, sa dépression, là, suite, là, c'est un faible. Ah, oh, mon Dieu, comment il peut tomber dans la dépression? Ça n'a pas de bon. Et on les dénigrait. J'en cacherai pas. C'est comme ça. Puis c'est comme ça encore dans bien des cercles que quand les gens tombent dans la dépression, aussi ami ou peu importe, tu l'élevais, que quand il est dans sa dépression, tu vas l'abaisser. C'est ce qui est arrivé avec Job. Autant qu'il est élevé dans la ville, quand tout le malheur y est arrivé, ils se sont moqués de lui. Ils ont rien qu'ils n'ont pas fait. Mais là, il n'y avait aucune indication que Dieu avait l'intention de lui expliquer ce qu'il faisait. C'est pour ça quand il dit, je crie vers toi, mais tu ne me le réponds pas. Lui, il criait à Dieu, là, pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais il n'y avait aucune indication qui disait que Dieu était pour lui répondre quoi que ce soit. Fait que Job, là, son expérience avait un vide total de sens. Pour lui, là, ça n'avait aucun sens. Comment je pouvais être intègre, être autant béni de Dieu, puis tout ce malheur-là m'arrive? Il ne comprenait pas ça, là. Peu de choses sont difficiles à supporter que des souffrances inutiles. Ça veut dire que quand il nous arrive des malheurs, si on pouvait avoir une raison à ce qui nous arrive, ça serait peut-être un peu plus facile de les supporter. Mais quand, pour aucune raison, qu'on ne sait pas pourquoi ces malheurs-là nous arrivent, là, ça devient un peu plus difficile. Puis c'est là que ça vient nous chercher dans nos émotions, dans notre âme. Puis là, on commence à pourquoi? Pourquoi? Ce que j'ai fait? Là, on commence à... Ça prend quelqu'un à blâmer, non? On est pas mal de même, les humains. Faut toujours blâmer. Je vais prendre une gorgée. Faut toujours blâmer ce qui nous arrive, non? On est fait de même. Mais comment qu'un changement aussi radical, il a pu faire dans la vie de Job qu'au chapitre 2 et tout ce qui est arrivé, puis qu'il a toujours gardé sa fermeté, puis son intégrité, puis il arrive au chapitre 3, là, il tombe dans un vrai désespoir. Mais à ce stade, il devrait être clair qu'une épreuve entièrement nouvelle s'est maintenant abattue sur Job. L'épreuve de la dépression. Du profond traumatisme mental spirituel. Le terrible désastre du premier chapitre, Job a réussi à survivre. Il a survécu. Il a gardé son intégrité, même s'il a tout perdu ses enfants. Puis, logiquement, quand il a touché à son corps, mais à un moment donné, ça a été trop, là. Là, ça a été trop, là. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est que la bataille, en partant, au début, était de l'extérieur. C'était ses enfants, ses brebis, son argent, tout venait de l'extérieur. Mais quand c'est arrivé de l'intérieur, quand c'est venu toucher son corps, là, c'est un autre paire de manches. Il y a des gens qui vont faire des grosses dépressions à la suite de perdre un enfant. Les dettes, par-dessus les dettes, il y a plein de choses. Quand on parle de l'extérieur, c'est que ça ne vient pas nous toucher physiquement. Là, lui, ce qui est arrivé, là, c'est quand que ça vient physiquement. Puis pourquoi j'ai emmené aussi, puis c'est toi qui m'avais dit de l'emmener, cette chose-là, c'est qu'on voit le pasteur, là. Il traverse quelque chose d'extrêmement difficile. Là. Mais toute une vie pastorale, c'est tout le temps des affaires qui arrivent de l'extérieur. Une brebis qui est en détresse, l'autre qui est ici, tout le temps le fardeau. Les brebis, il faut t'en prendre soin. Tu as tout le temps un poids. Mais quand ça arrive de l'intérieur, comme que pasteur Claude vit comme c'est là, là, c'est tout une paire de manches. Là. Je vous dis, c'est plus pareil. Là. Proverbe 18, 14 nous dit, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit est abattu. Qui le relèvera? » Ainsi, Job a commencé à se lamenter à partir du chapitre 3. Il est évident que quelque chose de réel s'est produit dans Job. Il est dans une profonde dépression et de détresse. Fait que le chapitre 3 est en 3 lamentations. Fait qu'on va tourner Job 3. Fait qu'on pourrait dire la première question, la première lamentation, pourquoi suis-je arrivé? Pourquoi suis-je né? Fait que de 1 à 10... Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu, ce jour qu'il se change en ténèbres, ce que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent dans l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière, et qu'elles ne voient point les pauvres de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui m'a conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. » Fait que lui, il se demande, là, il maudit le haut de sa naissance, là. Avec pourquoi je suis né? Pourquoi je suis venu au monde si je peux traverser ces choses-là? Ces paroles sont des paroles d'un homme qui est tellement brisé qu'il ne pense plus vraiment à ce qu'il dit. Là. Ça va dépasser sa pensée là, dans la souffrance qu'il vit. Là. Sa solution à sa misère, ben, c'est tout simplement de ne pas être né. Si vous voulez, je peux traverser ça. Pourquoi je suis venu au monde? Il réagit de manière excessive, fait des déclarations exagérées, il saute aux fausses conclusions, il perd son sens de jugement, puis c'est comme ça la dépression fonctionne. Tu viens que tu as tellement mal à l'âme que ton jugement il est erroné. Tout ce que tu vois, comme on dit, hein, tu vois noir, là, tu vois plus. La dépression affecte le point de vue d'une personne. Ça donne un sens tordu à la réalité, une vision déformée de Dieu. Fait que là, Job avait vraiment perdu sa vision avec Dieu, là. Parce qu'il savait qu'il l'avait béni, il savait qu'il était béni de Dieu, puis il a gardé son intégrité, mais là, il était à un point qui dit, là, « Je maudis le jour que je sois né. » Mais qui nous met au monde? Qui nous crée? C'est Dieu qui nous crée. Mais il maudissait ce jour-là. Fait que sa perception avec Dieu avait changé. Là. Comme, c'est ta faute. C'est ta faute ce qui m'arrive, là. On commence à blâmer Dieu, là. C'est ça qu'on fait, là. On le blâme. Il faut s'en faire quelqu'un à blâmer, là. Pourquoi je traverse toutes ces choses-là? C'est pas de sa faute à elle, c'est pas de sa faute à toi. C'est sa faute à lui. C'est ta faute. La dépression. OK. Quand des chrétiens deviennent découragés, ça peut arriver. Ça peut arriver. Spécialement durant une période prolongée, ils peuvent perdre une bonne perspective de la vie et tirer des conclusions erronées et exagérées en sorte qu'ils voient la vie d'une manière qui ne correspond pas à la vérité, à la réalité. Ça, c'est pas moins d'être chrétien. Que tu sois chrétien ou pas, c'est le même, ça va arriver. Puis Job a compris cela quand il a parlé au début. Puis il réalise, là, il a vraiment réalisé qu'il a parlé d'une manière qu'il n'aurait donc pas dû parler. Parce que Job 6, 2 à 3, le Job, il dit, « Oh! S'il était possible de peser... » Écoutez bien ces paroles. « S'il était possible de peser ma douleur, la peser, c'est la douleur qu'il y a, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, tout ce qui traverse, il pouvait le mettre sur le bord d'une balance. » Là, il dit, « Elle serait plus pesante que le sable de la mer. » Ça veut dire, tu mets tout le sable de la mer sur un bord, puis tout ce qui traverse, lui, dans sa tête, là, c'est encore plus pesant. Le sable n'est pas assez pesant, là. Il n'est pas assez pesant pour lui. Job reconnut, c'est ça qu'il dit, il dit, « Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. » Là, il a réalisé, il a dit que, « Wow, je suis en train de perdre ma perspective avec Dieu, là. Ma douleur est tellement pesante que je suis en train de l'accuser, là. Je suis en train de... Je maudis le jour que je suis né. » Puis là, il dit, « Ouais, mes paroles, là, ils vont trop loin. » Job reconnut, quand il criait au milieu de ses angoisses, qu'il avait parlé d'une façon remplie de folie. Ensuite, il continuait sa lamentation avec ses pensées. Si je devais naître, alors pourquoi? C'est là ce qu'il dit. Bien, d'abord, si je devais naître, pourquoi je n'ai pas décédé à la naissance? C'est ce qu'il dit. Pourquoi je n'ai pas décédé à la naissance? Puis là, on va lire verset 3, 11 à 12. Là, il dit, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? » Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir? » Puis l'expression « les genoux pour me recevoir », dans les coutumes hébraïques, quand l'enfant venait au monde, il déposait sur le genou du père, puis le père, c'était un signe d'appartenance. C'est mon enfant, c'est le mien. Amen. Lui, là, c'est pour ça, là, il dit, « OK, ben d'abord, je suis à Dieu, là, parce qu'il parle à Dieu, là. Si je t'apporais être au monde, là, mais pourquoi je ne suis pas mort quand ma mère m'a mis au monde? Si je peux tout passer, toutes ces calamités-là? » Job exprime le fait qu'il aurait préféré mourir à la naissance. Dans son état présent de dépression, Job ne voit aucune raison de vivre. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis qu'il survive à sa naissance si toutes ces tragédies-là étaient pour lui arriver. Il dit, « Pourquoi tu m'as laissé vivre d'abord? Tu m'as donné la vie, mais tu aurais dû venir me chercher quand je pars. C'est atroce que je traverse, là. » C'est souvent de cette façon que les gens parlent quand ils sont atteints de la dépression. C'est ça qu'il dit. J'étais allé avec le pasteur... son deuxième rendez-vous. Un deuxième rendez-vous. Fait qu'on rentre dans la salle du triage. Fait que... une des premières fois qu'il a dit à l'infirmier, « Dieu vient me chercher. » C'est ce que sort de sa bouche. Je vous dis, notre pasteur, il est dans une détresse. Là. Mais c'est le même qu'il voit, là. Puis c'est pas les seuls, là. C'est pas parce qu'il est pasteur. Puis j'ai demandé pardon parce que je me suis dit, comment qu'il a fait pour tomber de main? Ça m'a étonné, j'ai été étonné. Pourtant, Claude, il était solide. Mais regardez, Spurgeon est tombé là-dedans. C'est plein. On n'est pas immunisé contre ça. Personne. grand, riche, pauvre, simple d'esprit, intelligent, tu ne sais pas le jour où tu peux avoir la visitation de la dépression dans ta vie. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Job, il n'a rien demandé, lui. Rien. Tout allait bien. Mais Dieu, il avait de quoi faire dans Job encore. Job 3, 13 à 19. OK, on va le lire. C'est long, un peu, une minute, là. OK, ici, là, Job, là, OK. Job, ici, là, on va voir, on va lire un peu, là. Il y a une mal conception de qu'est-ce qu'était la vie après la mort. Parce qu'il dit, là, c'est là qu'il arrive au verset 13, là. Là, il dit, c'est parce qu'ici, ici, il est pour mourir, parce qu'il veut mourir, là. Il dit, je serai couché maintenant et je serai tranquille. Je dormirai, je me reposerai avec les grands, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas, ou autrement dit, il dit, je n'existerai pas du tout. Je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Mais là, il y a une mal conception, parce que dans les pensées hébreux, là, eux autres, c'est impossible qu'il n'y ait pas de vie après la mort. Puis c'est impossible qu'il y ait une vie après la mort. Mais il ne faut pas oublier, la parole de Dieu, elle se dévoile d'une façon progressive tout le temps. Lui, il avait cette perception-là que quand il était pour mourir, il ne faut pas oublier que Job était riche, là. Lui, il dit, si je vais mourir, je vais retourner dans mon état que j'étais avant, avec les rois, quand j'étais comme respecté, puis tout ça. Est-ce que tout le temps de même, ça marche? Il faut comprendre que la Bible, c'est ça. C'est ça. Puis, on voit que cette perception-là qu'il y avait de la vie après la mort est erronée. Job, plutôt, il n'y avait pas bien, il n'y avait pas comme du monde. Puis c'est pour ça que lui, Job voit la mort comme une place de repos, de soulagement de tout ce qu'il a souffert. D'être réuni encore avec les grands, tu sais, d'avoir tout son statut qu'il avait. Mais le Nouveau Testament est clair sur la vie après la mort. Mais hélas, beaucoup de gens cherchent délibérément la mort pour échapper au fardeau de la vie, des fardeaux de la vie que tu ne peux pas faire face. Des fois, c'est trop lourd dans ta vie. Il y a des gens qui vont mettre terme, ils vont se suicider, c'est ça qui va arriver. Il y a des gens qui vont aller jusque-là parce que le fardeau est trop pesant, c'est trop lourd, qui n'arrive pas. Vous savez, le suicide, j'ai toujours pensé, moi, que le suicide, des gens se suicident, vont pas au ciel. Comme, j'ai pas pensé, parce que je me référais tout le temps à Judas. On se réfère tout le temps à Judas. Judas, il s'est pendu, fait que... Mais si Job, là, dans tout, quand il est assis ses cendres, puis elle a dit, là, « Hey, je peux plus, je n'en peux plus, je suis plus capable. » Puis, il se suicide. Ça va-tu avec Dieu? Oui, ça va avec Dieu. Oui, ça va avec Dieu. Dieu n'enlèvera pas son salut. Cet homme-là avait tellement une détresse où d'autres personnes qui ont... Écoute, c'est certain que si quelqu'un se suicide et ne connaît pas le Seigneur, que voulez-vous que je vous dise? On parle des chrétiens qui connaissent le Seigneur. Vous savez que dans les églises, là, on a tellement diabolisé le suicide. C'est grave, là. Dieu n'enlève pas son salut. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils traversent, c'est une détresse extrêmement au-delà de leur force. Au-delà qu'à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Maintenant, vers la fin du livre de Job, Job a déjà acquis plus d'informations concernant la vie après la mort. Parce que dans Job 19, 26 et 27, le Job dit, « Quand ma peau sera détruite, Il se lèvera, en parlant de Dieu. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Là, il ne serait pas assez avec les grains. Il sait que quand il va mourir, c'est Dieu qui va voir. C'est lui qui va voir. Parce que, n'oubliez pas, quand il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Quand on meurt, là, on s'en va pas sur une plage. Là. C'est le Créateur qu'on rencontre à partant. Notre Créateur. 27. Il dit, « Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Ma langue languit d'attente au-dedans de moi. » Fait que là, son espérance commence à changer. Là. Il sait que Dieu est là. Mais qu'est-il arrivé? Job a maturé au travail du livre. Il a maturé. Maintenant, il comprend la compréhension différente de ce qui lui arrive après la mort. Mais ici, dans sa dépression, il ne voit pas encore clairement. Il voit seulement la mort comme une porte de sortie. Alors, fait que Job, il a dit, pourquoi je suis né? Pourquoi j'ai survécu? J'aurais dû mourir quand ma mère m'a mis au monde. J'aurais dû décéder. Ça, j'aurais pas tout vécu ça. Maintenant, il se dit, la troisième lamentation, pourquoi? Pourquoi? Fait que si on va au 3:20, pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? Écoutez ça, ce qu'il dit là. Des gens qui sont vraiment dans des détresses, là, ils vont convoiter la mort plus qu'autre chose. Là. Parce que c'est énorme, la détresse qu'ils vivent. Là. Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts? Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme de l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Là, Job, ce qu'il demande à Dieu, là, pourquoi? Pourquoi tout ça, ça m'arrive? C'est légitime de demander pourquoi à Dieu. Hein? C'est légitime. Jésus sur la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il pose la question à son Père. Y a-t-il une réponse? Il n'y en a pas eu de réponse. Dieu n'a jamais répondu. Dieu n'a pas répondu. Puis c'est pas mal de poser, de demander une question à Dieu. Pourquoi Dieu? Ce qui est mal, c'est quand on s'attend à ce que Dieu nous doit une réponse. Dieu ne nous doit rien. R-I-E-N. Des fois, on peut traverser quelque chose et on n'entend pas. Dans la vallée là, des ténèbres, de l'ombre de la mort, on crie à Dieu et on ne l'entend pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas là? Non, il est là. Mais il peut répondre. Il peut ne pas répondre. Dieu, c'est Dieu. Puis beaucoup de gens, ce qui arrive, puis même pas des chrétiens, tous les malheurs qui leur arrivent des fois, ils vont blâmer Dieu. C'est sa faute à Dieu. C'est sa faute à Dieu. Mais même des chrétiens qui traversent des choses, c'est la faute à Dieu. Parce que le passage dit, ils tombent dans un état de dépression. Ça prend le dessus. Là. L'émotion, l'âme est tellement malade là, que... Job est à un point tel qu'il ne peut penser à rien de bon de sa vie. Tout ce qui avait du sens est parti. Santé, richesse, famille. Fait qu'autrement dit, ça prend pas un psychologue là, pour dire à Job, là, wow, lui, là, il est dépressif, le gars. Là. Imaginez-vous, on peut traverser la perte d'un être cher, puis on peut être dans une dépression pour le restant de la vie. Hein? Ta tante, là, comment elle s'appelait, Carmen, elle a été fragile, elle a été, tu sais, quand son petit gars il est mort dans l'accident, là, ça a été difficile. mais a été fragile bien des années. Puis a perdu un enfant. Lui, il en perd 10. Il perd tout ce qu'il y a, tout. Puis pourtant, Carmen, là, son mari, c'était un homme de construction. Ils sont à bien financièrement, tout ça. Ça, ça restait là, ça. Parce que des fois, ça prend juste une affaire. Juste une. Toute la négativité qu'il peut y avoir dans nos temps de détresse ou d'affliction, cela ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. C'est l'ennemi. Il n'y a personne qui soit au-delà de la portée de Dieu, ni moi, ni vous, dans qu'est-ce que nous pouvons traverser. Il ne faut pas limiter Dieu. Même dans nos pires temps de détresse, peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas eu encore, peut-être qu'il y en a qui en vivent, des petits, des grands. Dieu est là. Dieu, il est là. Amen. Job se demande juste à haute voix pourquoi Dieu ne le sort pas de sa douleur et ne le laisse pas mourir. Seigneur, pourquoi ne mets-tu pas un terme à ceci? La grandeur dans tout ce qu'il a traversé, Job, réside dans le fait qu'en dépit de tout ce qui a déchiré son cœur, imaginez-vous, tu perds des enfants, là. 10! C'est atroce. Tu sais, tu peux perdre ta job, tu peux perdre un être cher, il en perd les 10. Il n'a jamais perdu son emprise sur la foi et son emprise sur Dieu. Job a lutté, interrogé et parfois même défié Dieu. Mais la flamme de la foi a demeuré, ne s'est jamais éteinte dans son cœur, a toujours resté là. Puis on peut le voir plus tard que cette flamme-là, il a vécu plus tard pour triompher dans sa foi. Encore une fois de plus, OK, il y a d'autres déclarations dans Job que je vais déclarer. Là. Job 13:15 nous dit, « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Puis là, je suis allé voir la version King James, que j'aime beaucoup mieux. Il dit, « Même s'il me tue, en parlant de Dieu, j'aurai confiance en lui. Mais je me maintiendrai dans mes propres voies devant lui. » Malgré tout ce qu'il a traversé, là, il est comme revenu la petite flamme qui est restée. Là. Non, je vais croire en mon Dieu dans ce que je traverse. Je vais rester là. Job 16, 19. « Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin dans les lieux élevés. » Job 19, 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Et la chose la plus importante à retenir est le fait que Dieu fait l'éloge avant et après de son expérience dans la dépression. Dans tout ce qu'il a traversé, là, vers la fin du livre, là, écoutez bien ce que Dieu dit de Job. Job 42, 7 à 8. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Téman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. » N'oubliez pas, c'était les trois là, les amis de Job qui sont allés le plaindre. Là. Mais n'oubliez pas qu'au début, là, quand ils ont allé le plaindre pour la première fois, là, ils ont été 7 jours et 7 nuits assis à côté de lui sans dire un mot, à force que la douleur, il pouvait... Job était tellement dans la douleur qu'ils n'ont pas dit un mot. Imaginez comment ça pouvait être atroce. Il dit, « Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je vous ne traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Dieu dit cela de Job à la fin du livre, après tout ce qu'il a traversé. Et pourtant, c'est Dieu qui a dit, qui a fait en sorte que Job traverse tout ça pareil, là, parce qu'il a autorisé Satan à passer là. Mais dans tout ça, ça l'a rentré dans une profonde dépression. Nous avons une... OK, ça je lis tantôt. OK, ça c'est bon. Ce que l'on voit ici, c'est un homme de Dieu qui n'a jamais perdu la faveur de Dieu et qui a passé au travers de temps vraiment difficiles dans sa vie. Parce qu'une fois que l'on verra cela, on commencera à comprendre que... Quand on voit ça, ce qui est arrivé à Job... C'est pas une Job, c'est Job. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui, ça. Une dépression comme que lui a vécu. Peut-être pas aussi intense, mais ça peut arriver. Maintenant, la réalité de la dépression. Tout le monde a une santé mentale et tout le monde sera confronté à des épreuves qui affecteront le bien-être mental. Toutefois, ce n'est pas tout le monde qui aura une maladie mentale. La maladie mentale affecte indirectement tous les Canadiens, Canadiennes, un moment ou un autre, que ce soit par une expérience personnelle ou celle d'un membre de la famille, d'un ami ou d'un collègue. Chaque année au Canada, une personne sur cinq aura personnellement un problème de santé mentale ou de maladie mentale. Dès l'âge de 40 ans, près de 50% de la population aura eu une maladie mentale. La maladie mentale affecte tout le monde, peu importe l'âge, le niveau d'éducation, le revenu et la culture. Toutefois, les inégalités, notamment le racisme, la pauvreté, l'itinérance, la discrimination, et surtout les fondés sur les genres, dans le sens que il y a toutes sortes d'apathies comme les gays, les lesbiennes, tous ces gens-là, peuvent porter atteinte, autrement dit, les gens de minorité visible. Fait qu'on, LGBTQ sont là-dedans. Okay? Que voulez-vous, c'est moins ça que c'est. Peuvent porter atteinte à la santé mentale et aggraver les symptômes de maladie mentale, surtout si les services en santé mentale sont difficilement accessibles pour ces gens-là. Puis, j'ai remarqué, je me rappelle, une fois, je prenais l'autobus à Ottawa, puis il y avait des Inuits, là, je pense que c'était tellement sous, là, c'est, puis il était trop sous, knocké. Puis l'autre, là, il criait des bêtises aux femmes qui passaient, mais c'était dégueulasse. Je peux vous en passer un papier. Mais ces gens-là, là, c'est des numérotés, ils ont été comme... Les gouvernements, ils ont pris le terre, ils les ont passés, puis ils ont fait... Ça fait tellement d'années, mais c'était des peuples, même les Autochtones dans le Nord, qui ont besoin, là. Mais c'est un peuple qui se tourne vers des croyances que c'est pas Dieu. Tu sais, ils ont plein de... La dépression majeure affecte 5,4% de la population canadienne et le trouble anxieux affecte 4,6% de la population. Le taux de mortalité lié au suicide est trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Mais les filles et les jeunes femmes sont trois fois plus susceptibles que les hommes de se mutiler, d'être hospitalisés par l'automutilation. La dépression majeure est maintenant la grande cause d'invalidité au monde. Imaginez-vous, là. Cette maladie coûte 55 milliards dans les baisses de productivité et dans l'absentéisme chaque année. Il y en a du monde là, qui manque de travail, là. Puis aussi, que quand tu files de même, t'es pas performant, là. Pardon. Plus d'un jeune de 12 à 25 ans sur deux, c'est-à-dire un sur deux de 12 à 25 ans, c'est 48%, affirme avoir des symptômes compatibles avec un trouble d'anxiété généralisée ou de dépression majeure, relève à une récente enquête sur la santé psychologique des jeunes. Oh, c'est une enquête qui était faite à l'Université de Sherbrooke. On pouvait lire dans le Journal de Québec le 25 avril 2021. Ça fait déjà deux ans, là. Le Québec est le plus grand consommateur de médicaments utilisés pour traiter la santé mentale au pays. On est les champions. Le champion, imaginez-vous, là. Et c'est au Québec que l'on en consomme le plus par habitant. En 2020, ce sont un peu plus de 1 milliard de comprimés qui ont été prescrits en santé mentale au Québec. C'est un fléau qu'on a, hein, vraiment, là. Un fléau. La réalité, c'est que les chrétiens peuvent aussi tomber dans une dépression. La dépression est aussi appelée le mal à l'âme. En anglais, ils vont dire « cold of the soul ». Et vous, sûrement, vous vous rappelez de ça. Alors, moi, il dit ça. Ah, j'achève. Tout le monde a été jeune. Vous vous rappelez vos premiers amours, ceux qui en ont eu. Vous vous rappelez sûrement votre première peine d'amour. Ceux ou celles qui en ont déjà eu une. Puis quand tu as une peine d'amour, là, ça fait mal. Ça fait tellement mal. T'es plus capable d'étudier. T'es plus capable de manger. T'es plus capable de dormir. À un tel point que ça vient affecter le corps. Puis là, lorsque tu arrives dans ton corps à un moment donné, à force de ne pas le nourrir comme du monde, tu vas peut-être manquer de sodium. Savez-vous, si vous manquez du sodium, vous commencez à parler de tout croche, vous n'avez plus l'affaire, ou si tu manques de tel, c'est que la dépression fait ça. Ça vient toucher l'âme, qui vient affecter le corps, puis le corps, c'est comme une voiture, là. Hé, tu ne mettrais pas du gaz avec de l'eau, là. Ça prend du gaz, du bon gaz. Et c'est ça que ça fait aussi. Tôt ou tard, quelqu'un va en attraper une. Le cold of the soul. Ça ne veut pas dire que ça va t'arriver. Ça peut arriver. Qui a dit, pasteur Claude, aurait traversé ça? Jamais j'aurais pensé ça. Moi. Jamais. Puis, imaginez, et des serviteurs de Dieu, incluant Spurgeon, Jérémie, Élie, Job, même David. Lisez les psaumes. Regardez dans les psaumes comment David crie souvent dans ses détresses. Dans des détresses, traqué comme un animal par Saül pour le tuer. Ensuite, quand il est allé, il était avec ses hommes, puis sont allés, il restait à Tixglad, puis il s'est en allé, puis ils se sont fait, ils ont volé toutes les femmes puis l'argent. Puis quand ils sont arrivés au camp, puis ils sont appuyés là, puis les hommes méchants, ils ont voulu le tuer, là. Puis après ça, là, ils sont allés chercher les femmes et les enfants. Vous vous rappelez cette histoire-là? Mais David, il a vécu beaucoup de stress d'anxiété. Selon l'Institut national de la santé mentale, ceux qui présentent 4 des symptômes suivants devraient probablement aller voir quelqu'un ou obtenir de l'aide ou d'essayer de s'en sortir. Voici les choses qu'ils ont énumérées. Avoir une perte d'activité intéressante, quelque chose qui est intéressant puis tu ne pratiques plus, ça ne t'intéresse plus. Un sentiment de culpabilité, une dévalorisation, un désespoir, trouble du sommeil, humeur dépressive, hyperactivité, léthargie, anxiété, pleurs, des réflexions lentes, des pensées suicidaires. Mais mon ami Job, il avait quasiment presque tous ces symptômes-là. Il semble que la mise à l'épreuve de Job par Satan soit terminée avec l'achèvement du deuxième chapitre. Job a résisté aux épreuves de Satan. Quand il était sur le feu et que sa famille a été prise et que sa santé et sa richesse ont été prises, il s'est accroché pendant ce temps, mais lorsque le concours a été conclu, c'est là qu'il est tombé dans cette profonde dépression. Puis même, vous savez, Jésus, dans le jardin de Gethsémané, ça dit qu'il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ça ne dit pas qu'il est tombé dans une dépression, mais dans des angoisses à un point tel qu'il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Imaginez-vous l'intensité d'angoisse qu'il pouvait, parce qu'il savait qu'il s'en allait pour la croix, là, puis passer tout cette par amour pour chacun de nous. Faut se le rappeler. Par amour pour chacun de nous qui a passé ça. Mais à un point tel que sa sueur, puis apparemment, médicalement, c'est supposé que c'est vrai. Tu peux. Tu vas des ouais. Ici, ouais, Job 7, 11. C'est pourquoi je ne retiendrai point dans ma bouche, je parlerai d'angoisse dans mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Job ne s'est pas caché de sa dépression. Il s'est assis ses cendres, puis il a crié à quiconque voulait l'entendre. Quand on traverse quelque chose de même, ça me parlait à moi aussi, c'est de ne pas se cacher. Il ne faut plus se cacher. Mais c'est ça qu'on a tendance à faire, les gens dépressifs. Ils se cachent, ils s'isolent, ils poussent tous les gens, même les gens dans leur maison, ils les poussent tous de côté. Puis ça devient plus dur. Tu sens un temps que ça ne va pas bien. Va voir un frère. Va voir une soeur. Hey, ça ne va pas bien, je pense. Je ne dors plus bien, puis ah, qu'est-ce qui se passe? Faut en parler. On garde ça trop tabou, ces choses-là. Ben trop tabou. C'est tellement une réalité, plus que jamais. Puis beaucoup dans le corps de Christ, puis beaucoup de pasteurs ont fait des dépressions avec de la charge de l'Église. Pas un pasteur Claude, c'est plein. C'est plein de pasteurs qui ont hey, I give up. That's enough. J'en ai assez des brebis. Là. Oui. Puis souvent, pasteur, tu peux en témoigner, comment de fois, peut-être tu te l'es dit toi-même avec ton épouse. Hey, that's it, là. C'est trop, là. La charge, elle commence à être pesante. Puis on connaît la fin. Job 42, 2 à 5 dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est opposé, ne s'oppose à tes pensées. » Verset 3. 42, 2 à 5, verset 3. « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon œil avait attendu parler de toi, mais maintenant ton œil m'a vu. » Pour qu'on ait la fin du livre, Job 42, 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand il eut prié pour ses amis. » Vous vous rappelez quand je vous ai dit, là, Dieu il condamnait ses amis, là, parce que vous ne m'avez pas donné gloire, là, Job va prier pour vous, puis je vais pardonner votre péché. Mais quand il a prié, là, c'est là, ici, là. L'Éternel, quand Job eut prié pour ses amis, Dieu l'a guéri totalement. Totalement. Il a tout ordonné sa santé. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Puis je suis allé voir, j'ai compté le nombre de brebis, de ci, de ci, de ça. Puis je suis allé à la fin. C'est le double. C'est vraiment le double. Sauf que les enfants, disons, mais vous savez, 10 ans dans le Seigneur, 20 ans, 25 ans, quarantaine d'années, tout comme Job, on pense connaître Dieu. On pense connaître Dieu. Job pensait connaître Dieu, lui, hein, parce que ça le dit qu'il était comme son ami. Puis regarde ce qu'il dit à la fin. Mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. Dans tout ce que tu as traversé, il est rentré dans une intimité encore beaucoup plus profonde avec l'Éternel. Il l'a compris. Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas saisir toute la grandeur de Dieu. C'est impossible. On ne peut pas le contenir. On ne pourra même pas. Je pense qu'on éclaterait à clair. Pardon? Ben oui. Absolument. Ne soyons pas surpris si un jour nous nous trouvons dans la confusion, dans le doute, affligés ou des fois complètement écrasés.
OK? Faut pas te surprendre. Faut pas se surprendre. Hey, comment ça, ça peut arriver?
Cela ne veut pas dire qu'on a perdu la faveur de Dieu. Des fois, Dieu, ce qu'il veut, là. Alain, tu penses de me connaître vraiment? On va faire un petit test, là, si tu me connais vraiment. Là, il fait passer par le tordeur, là. Puis là, on dit, oh, toi, Dieu, c'est ta faute. Puis ça a faute à ma femme, puis ça a faute à l'autre. Ça prend un coupable, je vous l'ai dit, ça prend un coupable. Ça en prend un coupable. Mais quand tu ressors grandi de ça, là, tu vois la grandeur de Dieu dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce que tu as passé. Et je termine avec ça. 1 Pierre 4, 12 nous dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Si on veut plus ressembler à Dieu, Dieu va prendre les moyens pour venir nous transformer. Puis des fois, moi, je sais ce que notre pasteur traverse. Dieu est avec lui. Mais il ne le voit pas, lui. Claude ne le voit pas. Mais je sais que Dieu, il travaille un peu comme qu'il a travaillé Job. Je le sais tellement, je le vois. Mais, gloire à Dieu. Fait que Dieu vous bénisse, puis prenons soin des uns des autres. La parole nous dit de se supporter les uns les autres. Prions les uns pour les autres. N'oublions pas que nous sommes frères et sœurs. Hein, faut jamais oublier ça. On est des frères, puis on est des sœurs, puis on a le même papa. Amen. Que Dieu vous bénisse.